Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quel est mon programme de l'été pour préparer le Gravelman Paris-Deauville qui est pile dans 2 mois? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans, comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end, telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, il y a quelques années je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant je cours tous les jours, mais vélo, je dois bien le dire, à l'origine ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier Gravelman. Et c'est ce que je vous raconte dans tous ces épisodes. Et je vous rappelle d'ailleurs que mon défi de l'année, mon objectif numéro 1, c'est le Gravelman Paris-Deauville 350, départ le 1er septembre. C'est vraiment l'objectif de l'aventure Gravel, hein, de faire le Gravelman 350. Oui, j'ai fait le Gravelman Auvergne, donc techniquement j'ai déjà fait un Gravelman, mais l'objectif c'est vraiment un Gravelman 350. Et vraiment, hein, le but de ce podcast c'est de vous raconter comment j'arrive à passer de 0 km, début janvier, je n'avais pas de vélo, à maintenant viser ce 350 km. Alors, où j'en suis maintenant? Eh ben, c'est un peu le but de cet épisode, de vous dire un petit peu comment je vais préparer ça, quelle est mon ambition, ma stratégie pour préparer ça, comment j'envisage les choses, voilà, tout simplement. Avec, tout simplement, je vais commencer par le fil rouge, comme je fais d'habitude, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Je vais vous donner, en fait, un petit peu quelques perspectives de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, sachant que j'ai roulé 2615 km, depuis que j'ai commencé le vélo le 30 janvier. Donc j'ai fait 2615 km avec des petites semaines, des grosses semaines, etc. Par exemple, j'ai fait des semaines à 392 km, 20 heures de selle, et 316 km, 13 heures de selle. Et la semaine dernière, en fait, j'ai beaucoup moins roulé, j'ai fait que 118 km en deux fois, soit 4h56 de selle. Alors là, c'est un peu en dessous de ce que j'avais prévu. Autant la semaine à 316, 13 heures de selle était un petit peu au-dessus de ce que j'avais prévu, même si vraiment je m'en rapproche, je voudrais me rapprocher plus régulièrement de ça. Là, je suis un petit peu en dessous. Bon, ça s'explique en fait par des questions d'emploi du temps, de gestion de ce que j'ai fait, etc. La semaine d'avant, j'avais quand même fait pas mal de chemins, des allers-retours. J'ai fait 120 km sur une journée. J'avais enchaîné un petit peu comme ça les déplacements avec des sections de 50, 60 km, 3 heures. Et là, en fait, la semaine dernière, je l'ai fait que deux fois, voilà, tout simplement. Enfin, j'ai fait qu'un aller-retour par rapport à ce que je fais d'habitude, alors que j'en ai pas fait plus. Mais bon, d'un autre côté, ça m'a permis aussi, j'ai croisé des gens sur la route, etc. J'ai pu discuter, ça changeait un petit peu. Je vous rappelle aussi qu'à côté de ça, je marche, je cours. Il va bien falloir que je nage aussi un petit peu, car j'ai un événement prévu qui vient un petit peu placer un petit peu un coup de tension, on va dire, un petit peu sur cette histoire de préparation, mais qui vient de mettre un petit peu aussi de piquant, qui vient un petit peu changer un petit peu le train-train, on va dire, et ça c'est pas mal. C'est la IOTA qui a Vichy le 23 juillet. Alors la IOTA, en fait, c'est une course avec un enchaînement de natation et de course sur des boucles à faire de plus en plus vite. Bon, l'idée, c'est qu'on part pour 500 mètres de natation, ensuite on court 4 km, c'est une boucle. On doit la faire au début, alors je sais plus combien de temps, mais voilà, la première boucle, et puis on doit la faire de plus en plus vite, et au total, si on arrive jusqu'au bout, il y a 5 boucles. Voilà, 5 boucles. Donc, ce qui fait quand même un volume de course et de natation qui est finalement important. Que pour l'instant, en fait, la natation, je l'ai pas. Donc, il va falloir que je nage un petit peu. Et ça tombe bien, en fait, là, on peut nager dans l'Allier à Vichy. Ils ont mis le couloir de nage, etc. pour nager dans l'Allier. Donc, je vais pouvoir me préparer. Et c'est beaucoup plus proche que d'aller à la piscine. Donc, je vais me concentrer sur quelques jours vraiment d'aller sur la natation, d'autant qu'en fait il va y avoir des vacances et que je vais pas rouler en fait, ça c'est un truc, c'est que je vais pas rouler d'ici le 23 juillet, je vais relativement peu rouler pour des questions de logistique, de vacances avec ma fille, etc. Donc je vais me concentrer sur la iota. Là, je roule un petit peu, je cours, je nage, etc. Et puis après, je vais beaucoup courir et nager jusqu'au 23 juillet. Et puis ensuite, après, eh ben, je pourrai me concentrer pleinement sur l'objectif suivant, et vraiment, qui est le Gravelman. Voilà. Alors maintenant, parlons de ce Gravelman. Parce que c'est vraiment là un gros gap hein, par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est vraiment la poursuite du projet, mais c'est tout, bien sûr l'inconnu. Puisque 350 km, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait d'affilée, on va dire. Voilà. Je vous rappelle, j'ai commencé le vélo le 30 janvier. Et c'était d'ailleurs le premier épisode de ce podcast. Donc vous pourrez réécouter ça. Si vous tombez sur cet épisode, vous n'avez pas écouté les premiers épisodes, vous pouvez revenir à cet épisode-là. Et depuis, j'ai passé plusieurs étapes. C'est ce que je vous raconte de semaine en semaine. Donc j'ai commencé par prendre l'habitude de rouler. Au départ, une heure. Et puis ensuite, deux heures. Rouler plus. Dépasser les 50 km. M'équiper petit à petit. L'histoire des pédales automatiques, etc. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Vous avez tous suivi ça. Tous mes questionnements aussi sur les pneus, sur le matériel, etc. J'ai fait plusieurs sorties de 100 km que je n'avais jamais faites avant le Gravelman Auvergne. Le Gravelman Auvergne, les 147 km, était ma première sortie de 100 km. Donc c'était très bien passé, hein, soyons honnêtes. Et donc depuis, j'ai fait plusieurs sorties de 100 km. Donc ça, c'est cool. J'ai fait 170 km aussi pour aller en Bourgogne et pour aller voir l'ami Hermano qui faisait sa traversée de la France. Et puis le retour depuis le Beaujolais, 140 km. Avec un petit bout au milieu là de course et de vélo entre les deux journées. Donc j'ai fait... En fait, j'ai fait 350 km sur 3 jours hein, finalement, mais je n'ai pas encore dépassé les 200 km. Hein, et le but du jeu du Gravelman, c'est faire 350. Donc maintenant, en fait, ma distance maximum de ce que j'ai fait, c'est 170 km. Donc il y a un gap à passer. 170 en une journée à 350 km sur... En fait, c'est sur 3 jours, hein, 1er, 2 et 3 septembre, maximum. Donc voilà, et, bon, j'aimerais bien quand même arriver à les faire, non pas sur les 3 jours, mais en me disant, bah tiens, il va passer la nuit, etc. Et bon, bah il y a une étape à passer. Hein. C'est justement ça l'été, c'est comment passer cette étape de dire, il faut que j'arrive tout simplement à avoir tout simplement, avoir la forme, l'énergie, avoir la gestion de mon corps, un peu me connaître un peu plus, pour... arriver à faire ça. Et donc, en fait, la question, c'est comment me rapprocher des conditions de faire ces 350 sur le week-end. Et donc, d'enchaîner des sorties longues sur plusieurs jours pour dire, je vais pas partir faire 350 km d'un coup, là, comme ça, demain, là. Mais en fait, me dire comment je fais pour m'en rapprocher. Je répète, je m'en étais rapproché pour aller voir Hermano en Bourgogne. J'avais fait 350 km sur 3 jours. Mais finalement, je suis pas très loin de la distance Gravelman, hein, je dois le dire. Mais je dois aussi reproduire ce genre d'épreuve. Parce que il y a des trucs à tester et puis j'espère le faire bien sûr sur 2 jours hein, le 350. Je me dis on pourrait découper peut-être par exemple faire 200 km le premier jour, faire une petite pause nocturne suivant comment ça va se passer, faire 150 km le deuxième jour. Je sais pas exactement comment ça peut se faire. Ou alors essayer de tout faire dans la dans la foulée. Ça c'était un peu ce que j'ai fait sur mon 24 heures. Quand j'ai fait mon 24 heures en courant l'an dernier, j'avais dit je veux pas dormir, je veux pas m'arrêter pour dormir et tout la nuit. Je veux le faire. Je veux voir la sensation de la nuit, de courir la nuit, de voir ce qui se passe. Mais j'avais finalement somnolé pendant quelques minutes. J'ai fait après, j'avais froid. J'ai fait à un moment donné, j'ai fait des massages, etc. Donc je me dis en fait, faut parer aux éventualités de dire qu'il y a un moment donné, oui, peut-être que selon les conditions météo, selon mon état de forme, selon comment je me sens, etc., ça sera peut-être sur 2 jours, peut-être 2 journées plus longues que ce que j'ai prévu, etc. Je pars dans l'inconnu, je ne sais pas vers quoi je me dirige. Et donc là, il y a vraiment des grands questionnements là-dessus. Et donc, il faut que je sois paré finalement à passer la nuit. Mais alors, comment préparer de passer la nuit, en fait? Ah ben, à part faire des sorties en disant, bah tiens, je vais partir rouler tard, je vais partir rouler une partie de la nuit, etc. Bon, c'est pas mal. Voilà, ça fait partie du plan. Et en fait, il faut aussi que la grande question, je me dis, mais c'est comment je fais pour enchaîner les distances et arriver finalement à préparer ça. Et je dois le dire un truc, c'est que, alors moi, je fais pas de home trainer, etc. Hein, je roule dehors. Et puis, enchaîner les distances pour enchaîner les distances, et ben, ça me ferait pas vraiment rêver en ce moment. C'est pas le truc qui me fait rêver de me dire, bah tiens, je vais me faire un jour 100 km, demain, je vais me faire 100 km de plus, etc. Cet enchaînement-là et tout. Je le vois faire, hein, je le vois hein, dans ce que vous faites, etc. Moi, je roule tout seul. Bon, j'ai des trucs aussi à faire par rapport au podcast, par rapport à mes clients, par rapport à ma vie pro, perso, etc. Je me vois pas vraiment exactement me dire bah tiens, je vais faire deux sorties de 150, etc. Même si j'ai peut-être des petites idées, etc. Je me suis dit tiens, et si j'allais voir le lever de soleil sur la chaîne des Puits et tout en partant de la maison, je pense que l'aller-retour ferait bien 100 km. Mais après le deuxième jour, où aller ? Enfin voilà, c'est un petit peu mon questionnement qui était comme ça. Et puis il y a la question de dire la gestion de la nuit, comment dormir, comment m'alimenter tout au long, me tester un peu sur finalement de rouler plus longtemps, etc. Et je dois le dire en fait, hein, le fait d'avoir cette notion de déplacement, d'aller d'un point A à un point B, puis un point C, puis revenir, etc. J'avais fait sur ma fameuse première aventure. Ben en fait, je trouve que c'est cool quoi, plutôt que de revenir comme ça, de dire bah tiens je fais 100 km en revenant à ce point-là, me dire que je fais 100 km pour aller à un autre point et puis qu'après je ferai encore un autre point, puis un autre point, puis un autre point, que finalement je reviens pas juste le jour mais que je fais sur 3, 4, 5 jours, et ben en fait je trouve que ça serait cool et que ça me tente bien parce que je trouve qu'il y a une dimension dans le déplacement de changer de région tout simplement et tout qui me tente beaucoup. Et c'est là que j'ai découvert en fait une grande découverte du vélo en fait, c'est cette capacité à se projeter en fait sur de l'aventure, parce que l'aventure que j'avais en course, bon bah finalement de se dire tiens comment je vais faire pour aller à telle distance etc, on est restreint quand même dans la zone, alors que là on peut allonger la zone, on peut vraiment l'agrandir, et puis sur le vélo on peut porter plus de matériel, on peut amener de plus facilement de quoi dormir etc, de quoi manger, donc on peut allonger la distance. Et donc ça me il y a des trucs autour du bikepacking qui m'intéressent comme ça et tout, puis j'ai envie de voir la mer, j'ai envie de voir l'océan, et j'ai envie de voir aussi comment tester le bonhomme, j'ai envie de dire, hein, voir un peu comment je réagis sur finalement sur une aventure qui serait un peu plus longue, d'avoir plus de kilomètres, etc. Tester aussi le matériel, hein, certaines parties du matériel, etc. De me dire tiens, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux amener, comment je peux gérer ça, comment je peux charger aussi les sacoches pour que ça soit bien équilibré, que ça soit bien sur le kilométrage en fait, hein, de dire bah tiens, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce qui est important de prendre, comment je peux le ranger, comment je peux l'organiser pour que ce soit facile à attraper si je veux en attraper un truc et que j'ai pas tout à démonter. Voilà, tout un tas de petites questions que j'ai dans ma tête. Vous savez à quel point je peux avoir des questions dans ma tête. Vous en avez l'habitude si vous écoutez le podcast. Et donc, c'est là qu'est venue une idée en me disant, bah tiens, en partant de la maison, en partant de Vichy, comment je fais pour aller voir la mer ou l'océan? C'est quoi la distance la plus proche, la plus lointaine, l'endroit où je peux aller, ce que je peux faire, etc. Et donc, j'ai commencé à faire une carte. J'ai commencé à faire une carte. J'en ai parlé un petit peu à droite à gauche, donc peut-être certains l'ont déjà vu, mais j'ai commencé à faire une carte. Alors je dois le dire, c'est une carte qui est très approximative, pardon. Ouais, comme j'arrive pas à le dire, donc c'est approximatif aussi dans ma prononciation. Et c'est une carte que j'ai fait. En fait, j'ai pris Komoot et j'ai fait une carte. Et puis j'ai dit, bah tiens, je vais commencer à placer des points, à regarder un petit peu où je pourrais aller, qu'est-ce qui me tente, etc. Il y a des destinations qui m'attirent naturellement. Par exemple, les Landes. Voilà, je dis un jour, j'aimerais bien retourner dans les Landes. La Méditerranée, j'aime bien, etc. Et tout. Puis je me suis dit, mais l'océan, c'est un bout de temps que je peux aller voir l'océan, etc. Où est-ce que je pourrais aller? Donc, j'ai commencé à faire une première carte, en fait. Hein, comme ça, j'ai posé une carte sur Komoot. Et je l'ai placé mais vraiment au hasard en fait, c'est-à-dire que j'ai placé quelques points. Et puis ensuite, je l'avais partagé sur Instagram notamment en disant bah voilà, maintenant, voilà une carte approximative par où vous me recommanderiez de passer en fait avec quelques points de passage qui seraient intéressants. Où est-ce que vous êtes, vous qui me suivez sur Instagram, etc., mon compte Instagram @Bertrand Soulier. Où est-ce que vous savez s'il y a des bonnes glaces, des cookies, etc. Et puis je vais adapter la carte en fonction de ça. Alors, j'ai commencé à adapter la carte en fonction de ça. On m'a dit, il faut passer, il y a à Nantes, il y a des bons cookies, à Saint-Brévin, c'est super cool, et puis il y a ça et tout. Et donc, j'ai commencé un petit peu à affiner un peu la carte. Alors, affiner très approximativement, hein, à ma manière à moi, puisque je vous rappelle que quand j'étais parti en Bourgogne, je n'avais pas fait de tracé à l'avance vraiment précis, hein. J'étais vraiment basé un peu sur ce que me racontait Google. Et donc, j'ai commencé à faire une carte, Vichy, Nantes. Voilà, tac, j'ai posé ça et j'ai dit tiens, combien ça fait de kilomètres? Est-ce que c'est faisable par exemple en un aller-retour sur je sais pas 2-3 jours, etc. Bon, ça, il y a des trucs faisables, mais je me dis ce serait dommage quand même d'aller à Nantes et de faire l'aller-retour. Et comment je reviens? Alors j'ai commencé à me dire ça serait cool de rouler le long de l'océan là, voir un petit peu comment ça se passe. Alors j'ai dit tiens, je pourrais descendre Nantes Bordeaux par la côte. Et puis il y a des passages sympas, etc. Bon, il y a 2-3 passages en ferry et tout. Mais ça peut être cool. Puis je me suis dit, bon, une fois que t'es à Bordeaux, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rentres? Est-ce que je rentre en train, d'ailleurs? Est-ce que je peux faire un Bordeaux-Clermont en train? Je crois pas, je sais pas s'il existe encore vraiment avec le vélo dedans et tout. Il y a des bus qui le font et tout. Je me dis, comment rentrer? Et je me dis, bah tiens, il y aura une autre solution. Ça serait de dire, je pourrais faire un Bordeaux-Narbonne par le canal du Midi. Et en fait, aller même jusqu'à pousser à Gruissant, là où on part chaque année d'habitude en vacances. Et donc, je me disais, comme ça, ça faisait une espèce de cheminement. Et puis, j'ai posé un peu la question, dire par où il faut passer, etc. Et donc, j'ai reçu en plus des messages en me disant, ah bah là, tu pourrais adapter un peu, là, tu pourrais un peu modifier ça, là, tu pourrais faire un peu ça, et tout. Et puis, j'ai regardé un petit peu sur Komoot, j'ai eu des propositions, j'ai regardé un peu les trajets, puis je me suis rendu compte aussi que je pouvais peut-être adapter un peu des choses. Par exemple, le Vichy-Nantes, en fait, j'ai fait une trace qui coupait vraiment beaucoup, puis je me suis rendu compte, en fait, que bah moi, à Vichy, j'ai l'Allier. L'Allier, si je remonte jusqu'à Nevers, en fait, rejoint la Loire, hein, ou plutôt c'est la Loire qui rejoint l'Allier, on va dire, normalement. Le jour où ils ont fait les cartes, ils sont plantés dans le sens. Ils ont cru que c'était en fait, c'est l'Allier le fleuve. Hein. Voilà, précision normalement. Ça devrait être ça, normalement, théoriquement. Et donc, finalement, je me suis dit, bah maintenant que t'es à Nevers, après tu prends tout le long de la Loire et tu files à Nantes en fait. C'est facile. Ça fait passer par les châteaux, ça fait passer par un peu des trucs sympathiques, etc. Et des communes aussi où d'ailleurs j'ai vu les noms et tout parce que je sais que il y a des gens que je suis et des gens qui j'ai discuté sur internet et tout qui sont placés par là, etc. Des endroits que je connais de noms, des endroits où je suis passé peut-être. Voilà, je me suis dit comme ça, tout. Je pourrais faire ça. Puis après, on m'a dit, bah tiens, à tel endroit, tu pourrais faire un peu modifier ça. Moi, je pourrais venir rouler avec toi. Dis-moi sur tel truc, etc. Et bon an, mal an, en fait, ma carte très approximative, elle fait quand même 1647 km et 5300 mètres de dénivelé positif. Et Komoot m'annonce, en fait, que c'est faisable en 100 heures. Ouais, 100 heures. Alors, bien sûr, 100 heures, 99 heures, on va dire, à peu près. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en 3 jours, hein. Déjà parce que minimum, il faut 5 jours déjà pour avoir le quota des heures, avec en comptant que ça serait s'endormir. Donc déjà, hop, en allongeant un petit peu, en disant bah tiens, en dormant un petit peu, en faisant comment je pourrais le faire, est-ce que c'est faisable? Et quelles sont les règles du jeu? Je pourrais me fixer en fait mon petite règle du jeu pour faire ce genre de choses. Alors, déjà, il y a un truc, c'est que j'ai décidé que je voulais pas passer des heures à faire une trace très précise, tourner à droite, tourner à gauche, etc. Et avoir un peu ce mix de navigation, c'est-à-dire savoir les grandes directions. Bon, au départ, la grande direction que j'ai trouvée, finalement, elle est pas très compliquée. Hein. La première grande direction, c'est de dire, faut que je file à Nevers. Bon, une fois que je suis à Nevers, après, normalement, tout le long, je peux suivre la Loire. Même si l'autre jour, une petite discussion sur Twitter m'a dit, au bout d'un moment, c'est un peu ennuyeux quand même, peut faire d'autres trucs. Mais l'avantage, en fait, c'est que je me dis que ça me permettrait de rouler, d'avancer et d'avoir un bon rythme, en fait. Hein, parce que c'est aussi ça que je cherche. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas de le faire en 20 jours ou quoi que ce soit, ce truc. C'est de le faire assez vite, en mode un peu sportif. En fait, rouler notamment au moins 200 km par jour sur les premiers jours. Ah ouais, 200 km par jour sur les premiers jours, au moins, en fait, au moins. Parce que je vous rappelle que mon objectif, c'est que cette aventure-là est pour préparer une aventure, le Gravelman, en fait. Gravelman, 350 km. Donc je me dis, si par hasard, il y avait un peu de plat, de quoi rouler, de quoi enchaîner, etc. Bon, quand j'étais parti dans le Beaujolais, j'avais roulé à environ 20 km en moyenne. 20 km heure de moyenne, 200 km, ça fait 10 heures de sel, enfin 10 heures de roulage. Si je roulais un petit peu plus, allez savoir à combien je pourrais monter. Mais mon idée, en fait, ça serait vraiment de ça. De dire, je veux faire 200 km par jour, au moins sur les premiers jours, pour me mettre dans la configuration gravel, gravelman, etc. Et donc, ben, quand je pose ça, en fait, je sais pas exactement la distance que ça va faire. Donc, j'ai décidé que je voulais avoir une autonomie importante dans les étapes. Et notamment, ne pas faire comme ce que Komoot me propose en disant, on va faire les étapes précises, en les divisant, en plaçant des endroits, vous pourriez dormir à tel endroit, etc. Pas vraiment mon truc, en fait. Donc, je voudrais pas de traces précises, avoir une grande autonomie dans les étapes, de dire que si un jour, ben, je fais 220, j'en ferai 220. Si le lendemain, je fais 200. Et si un jour, je fais 150, eh ben, je ferai 150. Voilà. C'est un peu l'optique de ça. Mais avoir quand même de l'autonomie dans les étapes, mais partir léger, en fait. J'ai pas envie de partir avec les sacoches le long des roues, enfin, les roues arrière, les sacoches de cyclo, le sac à dos, le truc très chargé, etc., avec des kilos et des kilos de matériel. Je veux le faire en mode sportif. En mode un petit peu du rythme, un peu sportif, léger, etc., avec un vélo qui soit plutôt léger et autre. Bon. Ça, c'est mon idée. Ensuite, je me suis fixé notre règle, en fait, c'est de rouler tôt et tard. car finalement j'ai peu roulé la nuit et en fait l'idée, et c'est pour ça même d'ailleurs quand je cherchais la date, parce que je n'ai pas parlé de la date encore, je m'étais dit le meilleur moment si j'avais pu le faire ça serait maintenant là, c'est-à-dire que au lieu de vous parler là tout de suite aujourd'hui, nous sommes le 29 juin, le meilleur moment pour le faire par rapport aux jours les plus longs etc, ça aurait été de le faire maintenant, parce que maintenant on peut rouler très tôt le matin, il fait je dis pas qu'il fait jamais nuit noire, mais bon, la nuit noire est assez courte. Et finalement, on peut rouler très tôt le matin et puis se dire, bah tiens, je vais rouler toute la matinée assez facilement. Et quand je dis très tôt le matin, c'est de dire, je peux rouler, moi je suis debout à 5h naturellement, mais dire, je peux rouler à partir de 4h30 sans aucun problème. Parce que je sais que quand je vais courir à 4h30, en ce moment, il fait... Oui, des fois, j'étais parti courir à 4h30 à cette époque-là de l'année. Il fait jour, quoi. Enfin, en tout cas, en Auvergne. Après, bien sûr, quand on va pousser un peu, parce que c'est ça aussi un peu l'inconnu, c'est-à-dire qu'en partant vers l'océan, ça se décale un peu. Et donc, il y a cette idée-là. Mais en fait, l'idée, c'est de pas rouler l'après-midi en pleine chaleur et plutôt de dire, bah, je vais rouler au maximum le matin et puis reposer un peu l'après-midi ou faire un peu de visite, dormir, etc. Et puis, sur la fin de l'après-midi, rerouler un petit peu et puis rouler relativement tard pour avoir justement connaître les crépuscules, la nuit, rouler un peu la nuit, etc. Mais vraiment me mettre dans des conditions du gravelman. C'est-à-dire de, c'est pas, passer la nuit à l'hôtel, j'arrive à 10h à l'hôtel, je repars le lendemain à 8h, etc. C'est vraiment mettre dans les conditions du gravelman. Dormir peu, rouler plutôt soutenu, rouler en continu, enfin, etc. Mais quand même avoir des moments de sommeil et puis quand même mettre des petites pauses pour manger un cookie ou une glace si ça me chante. Mon idée, c'est quand même de me dire que j'irai manger une glace au bord de la mer, hein, mon projet de départ. En fait, mon vraiment idée, c'est de faire un coffee gravel. Vous savez, je fais des coffee runs, c'est-à-dire que je vais, alors ça, si vous suivez Kilomètre 42, j'en ai souvent parlé, si vous regardez sur mon compte Instagram, c'est de me dire, bah tiens, je vais aller acheter un café à alors notamment chez Luc là qui est des fois aux bières, qui est des fois à différents endroits, et dire je vais y aller en courant. Alors des fois quand j'allais le voir, parce qu'il a une moto itinérante avec ses machines à café dans sa car, il va sur des marchés. Bon, des fois le marché, l'aller-retour, il faisait 18 km par exemple. Là actuellement en vélo, l'aller-retour pour aller faire ça, pour aller le voir, ça ferait 120 km aujourd'hui si je devais le faire. Alors ce week-end je peux pas le faire et tout parce qu'il est pas sur les marchés habituels, mais ça serait 120 km. Donc je peux le faire en vélo. C'est l'histoire que je peux le faire en vélo. J'ai commencé à le faire en courant, j'ai commencé à le faire en vélo quand j'ai commencé justement mes premières sorties gravel. J'ai même allongé, en allongeant un petit peu, j'ai fait une sortie de 30 km pour aller par exemple acheter un cookie, boire un café avec chez lui, puis rentrer. J'arrivais à le faire, voilà, à peu près sur une sortie au début de 18 et puis 25, 30, 40 aussi, en allongeant un peu les distances, etc. C'est comme ça que j'ai fait les premiers trucs. Et je me dis, mon café, mon coffee gravel, en fait l'idée ça serait de le faire océan et Méditerranée. Donc les pieds dans le sable, quand j'arrive au bord de l'océan, au bord de la Méditerranée, aller boire un café là-bas. Et puis il y a une autre idée aussi, un truc qui me trotte dans la tête. Ça fait des années en fait que je veux un hamac et je me dis tiens, ça serait peut-être l'occasion d'avoir un hamac et de dormir dans un hamac. Voilà. Idée en plus suggérée, très bonne idée qui était en plus suggérée par le magasin Tempo Bike à Clermont. Quand on avait discuté un peu, je lui ai demandé un peu quelques conseils sur le bikepacking. Je sais que certains d'entre vous aussi sont ces questions bikepacking. Donc là, moi, je vais vous donner mes stratégies, mais mon choix à moi, hein, vraiment, c'est de dire que ce sera le hamac. Ouais, voilà, le hamac. En plus, un hamac, ça coûte pas très cher, ça prend pas de place. Quand on compare la différence entre le hamac, par exemple, et une tente sur l'emplacement, sur la place, le hamac est plus petit. Un hamac de place à Décathlon, ça coûte une trentaine d'euros, soit un peu moins ou un peu plus, ça dépend les modèles que vous avez. Ça s'attache entre deux arbres qui sont un peu long, alors il y a jusqu'à 6 mètres je crois certains, il y a des hamacs plus petits, et puis l'idée en fait ça serait de dire il faut ça sépare un peu de ce qui se passe en dessous du froid, hein, de la terre et tout, mais bon bien sûr il n'y a pas de toit. Alors il y a des stratégies et je vais vous en donner une après, parce que je vais vous expliquer quand même comment j'ai réfléchi à mon truc. Alors maintenant que j'ai dit ça, que j'ai placé les règles du jeu, que j'ai placé le contexte, qu'est-ce qui manque pour faire ça? Bon, déjà la date. J'avais dit, hein, si idéalement, je pense que la meilleure période de l'année pour le faire, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en ce moment, il y a la RAF, hein, la Race Across France, avec mon bel accent, vous voyez. C'est vraiment le moment idéal, j'ai envie de dire, sur la longueur des journées, etc. Enfin voilà, il y a les courses, il y a pas mal de courses qui sont faites en ce moment, justement pour ça. Bon, moi, en fait, après, il y a les vacances avec ma fille et tout. La date de départ, ça serait de cibler peut-être la fin du mois de juillet. En fait, je rappelle que Le 23 juillet, j'ai la course de la Iota à Vigy. Et je me suis dit, bah tiens, après j'ai un ou deux épisodes de podcast à produire, à publier, etc. Mais je pourrais partir autour du 27, par exemple. Hein, c'est-à-dire laisser 3-4 jours après la Iota et puis partir dans la foulée. Et partir sur, on va dire, 8-9 jours comme ça pour rentrer début août. Et puis ensuite, sur le mois d'août, travailler. Et ce qui me permettra en plus de laisser une période de repos pour bien préparer le Gravelman, c'est-à-dire que après avoir fait ces 1600 km, et ben laisser derrière une période de repos pour souffler un peu et tout, mais aussi de me dire bah tiens, par rapport au vélo, j'ai peut-être ça à changer, peut-être ça à modifier, peut-être un petit réglage à faire, peut-être qu'il me manque ça, peut-être que j'ai vu ça, peut-être qu'il peut y avoir des petites évolutions comme ça, qu'il pourrait y avoir des trucs comme ça. Donc je trouve que c'est pas mal calé parce que ça laisse du temps avant le Gravelman pour récupérer, pour refaire du jus et tout, mais ça permet en fait quand même de passer, profiter encore de journées qui sur la fin du mois de juillet, entre le mois de juillet et le mois d'août quand même, on perd une heure de jour le soir assez facilement, donc ça, on reste quand même dans un moment où les jours sont encore relativement longs, ils sont moins longs que maintenant, mais ils sont encore relativement longs, et donc ça correspondrait bien à ça, à ce que je veux faire, et puis on est plutôt dans des moments où il fait chaud et tout, et puis voilà, c'est la période touristique, certes, mais je me dis, ça peut être sympa de le faire à ce moment-là. Bon, bref, maintenant ensuite, il me reste quelques questions sur le matériel. Alors, niveau matériel, bon, je vous l'avais dit, j'ai une sacoche pour le cadre, hein, demi-cadre, on va dire. J'ai une sacoche de guidon, hein, qui a un bon litrage, parce que normalement, dedans, on peut y mettre une tente, justement. Et forcément, on peut y mettre aussi un hamac et tout. J'avais testé ce que je pouvais mettre dedans quand j'étais parti en Bourgogne. Je peux mettre plein de bordel, hein. Alors des fois quand je pars sur 2-3 jours, quand je vais voir ma fille par exemple, je mets des livres, je mets des affaires de rechange, je mets mon iPad et tout. Non, là je partirai pas avec un iPad, je partirai peut-être avec un petit bout de livre, un petit livre pourquoi pas et tout, en me disant sur l'après-midi ça peut être sympa. Mais pourquoi, voilà, et puis il y aura un autre truc avec lequel je partirai, vous comprendrez, mais ça prend pas beaucoup de place. Donc je me dis là-dedans, je peux y mettre pas mal de trucs, je peux mettre aussi la veste de pluie, je peux mettre des choses comme ça. Quelques vêtements, et puis j'ai aussi en fait une grande sacoche de selle, là, vous savez, qui se met sous la selle et qui se met dans la continuité de la roue arrière, qui doit faire 17 litres, c'est la Zephal, je sais plus comment il l'appelle, de 17 litres, et donc dedans en fait il y a de quoi en mettre, hein, quand même du bordel, hein, on peut mettre beaucoup de choses, j'ai testé justement le week-end dernier, j'ai mis mes affaires de rechange en fait, shorts, chaussettes, t-shirts, etc., et j'étais parti avec plusieurs shorts et plusieurs t-shirts de rechange, comme j'étais parti sur 2-3 jours avant ma fille, en disant voilà. Donc là-dessus, je sais que j'ai de quoi mettre du stockage, mais de quoi mettre des choses. Mais quoi mettre d'autre dedans en fait? Qu'est-ce qu'il faut vraiment que je mette? Qu'est-ce que je peux mettre? Parce que finalement, je sais que j'ai du stockage, je sais que j'ai de la place, mais quoi mettre? Alors l'autre jour en fait, dans Vichy, je vais chercher mon pain et j'ai vu un vélo stationné sur le bord de la route qui avait des belles sacoches, alors qui avait justement d'ailleurs cette belle sacoche là à l'arrière de la selle et tout, mais qui a aussi des sacoches devant. Et en fait, la personne n'était pas là au départ. Et puis quand je suis revenu de la boulangerie, j'ai vu Hubert. Oui, il s'appelle Hubert. Il était là en train de boire un café, en train de regarder ses plans. Il cherchait aussi un vélociste pour acheter une chambre à air parce qu'il avait crevé. Et en fait, en discutant, Hubert est arrivé de Hongrie sur son vélo. Et il m'a donné un conseil, Hubert. Il m'a dit, déjà, je te conseille de le faire. Il m'a dit, écoute, pars à l'aventure, pars faire du vélo comme ça. Moi, je suis parti sur un mois. Alors lui, bien sûr, il le fait avec son optique à lui et tout, hein, avec en dormant dans des Airbnb, dans des hôtels le soir, la plupart du temps. Il arrête de rouler autour de 16h-17h, il passe une bonne nuit. Enfin, après, le lendemain matin, il repart et tout. Il roule plutôt sur la matinée. Voilà, donc il y a des trucs qui se ressemblent. Il avait un magnifique vélo, franchement, magnifique vélo. Un gravel, mais qu'il avait mis en vélo avec des pneus, des roues et des pneus route. Vraiment très beau, avec des sacoches. Alors, et lui, il avait des sacoches sur le côté de la roue, de chaque côté de la roue avant aussi. Hein. Il avait rajouté des trucs comme ça. Mais il m'a dit un conseil, il m'a dit, écoute, de toute façon, pour faire genre de choses, il faut bonhomme léger et matériel léger. Il m'a dit, tu trouveras tout au fur et à mesure. En plus, t'es en France, tu vas tout trouver au fur et à mesure, etc. Te charge pas trop. Il faut que ça soit, que tu sois léger, que le matériel soit léger, que ce soit pas pénible et tout, que t'es pas cette lourdeur, etc. Et donc, c'était un peu l'optique de l'option hamac, d'ailleurs, hein. Matériel léger, pas que ça prenne trop de place. Je le dis parce que des fois, j'ai doublé dans les, et puis quand je roule aussi, des fois, je vois des gens qui font du voyage avec des vélos un peu lourds et tout, et je les ai doublés aussi quand j'étais allé autour de Paray-le-Monial, là, le long du canal de la Loire, qui va jusque Digoin dans les choses comme ça. J'avais doublé pas mal de gens en vélo. Vous savez qu'il y avait les sacoches à l'arrière avec des vélos plutôt assis, des vélos électriques qui voyageaient comme ça. J'en avais même croisé des gens qui partaient justement aussi faire les châteaux de la Loire en vélo et qui m'avaient dit, ouais, on a 17 kilos de matériel sur le vélo. Ils avaient même il y en a un qui avait même un sac à dos. Ils avaient les sacoches à l'arrière, les sacoches à l'avant, etc. Bon, moi je veux pas ça, je veux l'option plus sportive en fait. Je veux me mettre dans l'option comme pour aller faire le gravelman, tout simplement quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai creusé un peu mon histoire quand même. J'ai regardé pas mal de sites, des comptes Instagram, discuté avec quelques personnes, certains qui j'ai mis des commentaires, qui se reconnaîtront et tout. Et en fait, j'ai décidé que mon idée à moi, ça serait quand même de partir super léger quoi. Et me dire finalement de quoi j'ai besoin. Alors sur le jour du gravelman, j'ai pas besoin de grand chose en fait, hein. Finalement il y a pas besoin de beaucoup, énormément de rechange, et je me dis là comment je peux le gérer. Mais je me dis, j'ai décidé que ce serait le minimum en fait. Le minimum c'est quoi? C'est de quoi rouler, bien sûr, de quoi me changer après pendant le nettoyage de ma tenue qui m'a servi à rouler dans la journée, c'est-à-dire avoir un peu de lessive et puis pouvoir la nettoyer, la faire sécher sur un bout de ficelle, et puis pendant ce temps-là faire un petit bout de repos, un petit bout de sieste, un peu de lecture, aller à la plage. Donc il faut pas que j'oublie mon maillot de bain quand même, mais ça se tombe bien, j'en ai acheté un la semaine dernière, un beau maillot de bain à fleurs. Donc déjà j'ai regardé en roulant et tout, il prend pas beaucoup de place, donc c'était un bon calcul mon histoire quand même. Donc le maillot de bain il est déjà prévu, une veste bien sûr pour me tenir au chaud et en cas de pluie, mais ça je l'ai déjà parce que j'avais déjà sur Gravelman, donc j'ai ça, et une paire de tongs aussi, voilà, une paire de tongs, et puis après de quoi finalement courir, parce que je continuerai à courir tous les jours. Je sais pas comment je vais gérer ça, mais j'aurais quand même envie de continuer à courir tous les jours. Le 26 juillet, ça fera 2 ans que je cours tous les jours, et donc voilà, le 26 juillet je fête mes 2 ans de course, et le 27 je me dis je peux partir à l'aventure en vélo. C'est un peu comme ça mon calcul, hein, le 26, un peu mon petit plan comme ça. Mais après, il reste en fait la plus grande question finalement, c'est pas sur le plan des vêtements, parce que sur le plan des vêtements, ça me fait pas vraiment peur. En plus, en me disant si jamais vraiment il manque un t-shirt ou quoi que ce soit, ça peut se trouver assez facilement. Le matériel, donc j'ai des chambres à air, de quoi réparer et tout. Il y a des décathlons partout, il y a des vélocistes partout. Donc tout ça, ça se trouve relativement facilement. J'ai mes bidons d'eau, je peux les mettre dessus, prendre de l'eau tout au long du parcours, etc. Voilà, tout ça j'ai. Mais en fait, il y a un plan alimentation en fait qui reste une question, et un plan sommeil. Alors sur le plan alimentation, j'ai fait un épisode de sport et nutrition dont je mettrai les liens dans les notes de l'épisode avec Alice Michel, qui elle en fait, alors c'est une coureuse de très bon niveau, qui a même été championne de France et tout dans ces catégories, et qui fait aussi des voyages et tout, alors qui fait plein de voyages, qui a fait le Nord, qui fait la Grèce, l'Italie, enfin plein de voyages comme ça avec vélo, avec des sacoches, hein, et tout, parce qu'ils partent 20 jours, 30 jours, des choses comme ça. Et en fait, on a fait un épisode là-dessus pour discuter justement de bikepacking. Qu'est-ce qu'on met dans ses sacoches, comment on mange, comment on fait pour finalement faire en sorte d'avoir suffisamment de quoi manger pour pas griller, pour pas que ça devienne problématique en fait, de pas être affamé, de pas être tout faible, etc., et que on prenne pas un coup à sec un vélo quoi, et pas être bien du tout. Donc on a discuté de ça, donc je vous laisse écouter ses conseils. On a parlé de plein de choses, des choses dont il faut se méfier, des choses qu'on peut faire, comment on peut acheter des trucs au fur et à mesure, comment on peut faire. Et depuis, je me pose quand même la question d'embarquer un petit réchaud pour faire chauffer de l'eau, pour faire chauffer des pâtes, pour faire un porridge le matin, ou prendre des plats lyophilisés. Alors bien sûr, il y a des plats lyophilisés auto-chauffants là qui existent, mais de dire est-ce que il pourrait pas, parce que quand j'étais gamin, je faisais de la randonnée, on faisait des petits plats, vous savez, les trucs lyophilisés là avec un petit réchaud. Parce que j'avais ça quand j'étais gamin, quand on faisait de la randonnée, enfin avec mes parents et tout. Donc je me rappelle de ça en fait, on allumait le petit gaz comme ça et tout. Bon, j'ai regardé par curiosité chez Decathlon, ça coûte pas très cher. Il y en a qui prennent pas beaucoup de place. Une cartouche de gaz, ça coûte pas très cher non plus, ça peut se caler relativement facilement. Et puis elle m'a dit sur le parcours, tu peux facilement acheter des œufs, tu peux facilement acheter un petit paquet de pâtes, trouver de l'eau, faire chauffer un truc, ça fait du bien, ça change un petit peu, ça change des pizzas, ça change d'aller toujours en boulangerie et tout. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, ça donne en fait un bout d'indépendance. Et oui, mon fameuse indépendance que je voulais en disant, je veux pas planifier tous les parcours, me dire si à un moment je veux m'arrêter, si je dois m'arrêter, si j'ai envie de m'arrêter, si je trouve qu'il y a un lieu sympa, etc. Et que j'ai la dalle et qu'il faut absolument que je trouve une boulangerie ou des supermarchés, je pourrais pas m'arrêter. Là, ça me donnerait un bout d'indépendance. C'est-à-dire avoir un petit peu toujours de quoi manger, un truc à chauffer, de quoi faire chauffer et pouvoir en fait m'arrêter à un endroit qui me plairait bien et tout, ben en fait je pourrais le faire. Et puis je me dis, ben dans ma fameuse sacoche arrière, je peux mettre embarquer une ou deux boîtes de macro par exemple, je peux embarquer des petits trucs comme ça en plus. Bon, j'ai un truc que j'embarquerai aussi, parce que j'ai commencé à faire une liste quand même, c'est j'embarquerai aussi ma cafetière Aéropress Go. Et oui, parce que j'ai une cafetière en fait qui est conçue spécialement pour ce genre d'aventure. Et en fait, je l'avais demandé au Père Noël il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans, et souvent en fait ce que je fais le matin, c'est que je la mets dans mon sac de course et je vais courir en fait avec, et je prends de l'eau chaude dans une bouteille thermos et je vais courir. Et puis je me place à un endroit où je vois le soleil et je me fais mon café là directement en regardant le soleil se lever, parce que je voulais tester l'aéropress, etc. En fait c'est un système, hein, c'est un système de piston, on met des petits filtres, tac, et puis comme c'est bien foutu, tout se plie, il y a même le petit bol, etc. Si je me dis je prendrais bien une petite tasse en plus, ma petite tasse de Yumsa dans une club. Voilà, parce que elle aussi j'ai trouvé comment l'installer sur le vélo, hein, tout simplement, hein, comment en mode voyageur quoi. Donc tout ça en fait c'est en train de se calculer dans ma tête, tac 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 tac, et je me dis elle je peux la prendre, et puis justement ça correspond à mon optique de me dire bah tiens, je trouve une plage, je peux faire un café les pieds dans le sable et tout, et puis justement je suis indépendant pour le faire, je suis pas à la merci de devoir trouver une paillote ou quoi que ce soit ouverte et puis avec un truc super cher. Bref, il me resterait à mettre quoi dedans? Des barres protéinées, des fruits secs, des dattes, des chats comme ça, peut-être des sachets d'électrolytes, peut-être des sachets, alors j'en ai encore des stocks, vous savez, je vous ai parlé des sachets de chez Apiron, dans lequel c'est de la poudre avec des glucides et tout, prendre des sticks de miel, alors les sticks de miel ça prend pas beaucoup de place, j'en ai une cargaison de chez Apiron encore, donc je peux en mettre plein en fait dans mes sacoches, dans mes trucs comme ça, quelques bonbons, éviter une tablette de chocolat parce que ça peut fondre, mais prendre quelques gâteaux, des choses comme ça, et puis prendre le reste au fil de la route, voilà, tout simplement en disant les fameux arrêts boulangerie, les fameux arrêts supermarché, etc., pour se ravitailler tout au long. Voilà, et puis s'il y a un truc dont je rêve aussi, c'est manger une pizza au bord de la mer, à trouver un camion à pizza, et puis donc acheter une pizza, hop, s'installer et tout. Ça aussi, ça fait déjà des trucs qui me font rêver. Bon, vous voyez, hein, mon histoire, elle a pris forme dans ma tête, hein, quand même, hein, je dis ça comme ça, mais elle prend forme. Hein. Et puis, reste la question du couchage. Alors, la question du couchage, en fait, j'avais dit, il y a l'histoire du hamac. Le hamac, ça me prend pas de place. Et puis, il y a aussi l'option de s'arrêter au dernier moment sur la route. Bah, un peu ce que me disait Hubert, un peu ce que me disaient d'autres. Et d'autres personnes me les conseillaient, m'ont dit, écoute, pour les premières fois, c'est pas mal. Au dernier moment, tu regardes s'il n'y a pas un Airbnb, s'il n'y a pas une place dans un petit gîte ou un truc comme ça. C'est une option aussi, hein, parce que si jamais il fait pas beau et tout, le hamac, ça peut être un peu limite, hein, mais c'est comme la tente. Alors, le hamac, quand même, il y a une solution, je dis, il n'y a pas de toit sur un hamac. Il y a quand même une solution qui est intéressante, c'est qu'en fait, il faut prendre un bout de ficelle, bien entendu, donc faut acheter de la ficelle. Mais j'ai une couverture de survie qui se replie, en fait. J'ai pris exprès une couverture de survie, je l'avais prise pour le gravelman, une couverture de survie réutilisable. Et l'idée, en fait, c'est que, bah, une couverture, comme elle est grande et tout, en mettant une ficelle au-dessus du hamac et en mettant la couverture de survie par-dessus, ça fait un toit. Ah, un toit de fortune. Ça fait pas une vraie tente, mais je me dis entre ça et puis dormir dans un bivy, là, espèce de truc qui ressemble à une... En fait, il y a deux trucs. Parce qu'après, il y a la question du sac de couchage. Et c'est comme la tente, en fait. Le sac de couchage, vous savez, il y a les sacs de couchage un peu façon sarcophage. Et bon, ça prend pas de place, ça permet de tenir au chaud, etc. Mais bon, on peut pas trop bouger. Moi, je sais pas si je vais arriver à dormir là-dedans. Si en plus, on mettait dans une tente bivy qui est toute fine, dans laquelle on peut pas bouger... Je suis pas certain en fait que ce soit le genre d'aventure qui me dise vraiment bien. Donc c'est pour ça que j'étais parti sur l'option hamac en me disant bah tiens dedans et bref, on reste à mettre un sac de couchage. Et comme alors là c'est là où comme c'est l'été, je me disais bon je vais prendre un modèle, pas besoin d'un modèle trop chaud. Et notamment il y a des modèles spécialement été où ils disent bah tant que la nuit il fait plus de 15 degrés, vous êtes bien. Bon, je me suis dit, c'est pas mal ce genre de truc, et puis en plus c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place, faut que j'aille voir en magasin, mais ça tient dans la main, donc a priori ça passerait dans ma sacoche, ce qui veut dire que dans une sacoche, je pourrais mettre un hamac, et puis je pourrais mettre une tente, et puis mettre le matériel de camping, type le réchaud, ma cafetière, etc. Et puis les vêtements dans notre sacoche. Ouais, c'est bien calculé mon histoire, sauf que, en fait, quand j'ai regardé, eh ben ce matin, il faisait 12 degrés quand même la nuit. ouais, bah oui, on a beau être le 29 juin, la nuit, en tout cas à Vichy, il fait que 12 degrés. Alors bien sûr, l'été, ça va se réchauffer, ça peut monter. Mais en fait, je me dis, on n'est pas à l'abri qu'avec le, il peut y avoir une pluie, il peut y avoir des trucs comme ça, il peut faire froid. Je peux aussi avoir besoin de dormir, bah par exemple dans un abribus ou je ne sais pas quoi, un peu en mode clodo, j'ai envie de dire un peu avec, clodo, c'est genre, enfin, je veux dire sans installation, sans rien, vraiment tout, ou même pourquoi pas sur un bout de banc ou des choses comme ça. Donc, un duvet un peu chaud, ça serait peut-être pas mal. Hein, un sac de couchage un peu plus chaud, ça serait peut-être pas mal. Après, la bonne nouvelle, c'est que ça s'alourdit un petit peu, mais ça prend pas beaucoup plus de place parce qu'il y a des sacs justement qui sont bien faits pour que ça soit tout pliable, etc. Et puis, je me dis bon, ça peut faire froid, mais en fait, c'est aussi début septembre dans l'optique du gravelman. Bah, si je dois dormir sur la route, et la question, ça sera est-ce que sur le gravelman, sur une distance comme ça, il y a pas intérêt. Surtout qu'en plein, une fois qu'on est à Deauville, bah après, il faut que je revienne moi de Deauville. Bien sûr, il faudra revenir à Paris, puis revenir ensuite à Clermont, enfin Vichy, Clermont. Ce sera l'entrée de ma fille, la rentrée scolaire et tout. Je me dis, faudra quand même que je revienne en train, donc il y aura quand même probablement une nuit à Deauville, donc où la passer, comment la gérer, etc. Il faudra quand même prendre de quoi dormir, de quoi changer un petit peu. Donc je me dis, début septembre, avoir une nuit un peu fraîche, oui, ça peut arriver. Donc voilà, le choix du sac de couchage sera fait en fonction de ça aussi. Mais ça reste en fait de la petite, j'ai envie de dire presque de la broutille. C'est pas une broutille une fois qu'on est dedans, mais je veux dire quand même que ça reste en fait presque un bout de détail, parce que je dois le dire, comme vous avez constaté, je pense beaucoup à ce projet. En fait, je dois le dire tout simplement, c'est que à chaque fois, en fait, je regarde mon Komoot régulièrement. En plus, alors vous avez vu là, Komoot en ce moment fait une promo jusqu'au 5 juillet sur les cartes Monde. Ils ont enlevé 10€ sur le pack. Donc, par rapport à l'épisode que j'avais fait sur les cartes, la cartographie, normalement, c'est à 29€. Là, vous avez toutes les cartes du Monde en hors ligne, etc. pour 19€. Et c'est un achat à vie, donc franchement, l'histoire d'avoir Komoot et pouvoir planifier au jour le jour, parce que c'est ça en fait le principe, ça serait de dire, bah tiens, aujourd'hui je suis à tel endroit, demain je peux planifier à peu près pour arriver à tel endroit, quelle grande direction je vais prendre, etc. Pas forcément activer le guidage. Bon, ça veut dire que ça, voilà, donc j'ai regardé mon Komoot, j'ai regardé un peu les trucs, j'ai regardé un peu comment planifier, j'ai regardé aussi d'autres cartographies, j'ai commencé à mettre des messages, j'en ai parlé dans mes newsletters, je vous en parle à vous, et puis j'ai imaginé un autre truc en plus. Et oui, il y a un autre truc en plus. Il faut aussi que je parte avec un petit micro. Alors bien sûr, je pars toujours avec un casque audio. Alors bien sûr, j'ai pas compté les batteries, trouver une batterie de rechange, mettre un chargeur, des choses comme ça. Mais aussi en fait, je partirai avec mon petit micro. Alors mon micro cravate, il va très bien pour faire ça. Et l'idée serait de faire un podcast itinérant, enregistré sur le vélo et pendant les pauses, directement sur mon téléphone, comme ça. Et je pourrais faire un petit épisode quotidien de voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, etc. J'avoue que si j'avais un peu plus de place, un peu plus de matériel, un petit peu plus de choses comme ça, mais en fait j'ai un enregistreur qui prend pas beaucoup de place, j'aimerais bien même rencontrer certaines personnes sur la route et faire des petits échanges comme ça, discuter et tout. Ou alors l'autre option, c'est que je peux le faire avec mon téléphone portable. Il faut juste que je trouve un deuxième micro-cravate, parce que mon premier micro-cravate, j'en avais un qui était bien aussi, qui a grillé, donc j'avais deux micro-cravates et j'ai pu faire des podcasts comme ça. Mais j'avoue que faire des épisodes de podcast tout le long de la route, ça serait aussi pas mal sur les temps de pause, en disant, non, bah, tiens, je rencontre des gens que je connais par le biais d'Instagram, des gens, faire des épisodes pour discuter un petit peu, pour échanger un petit peu, pour pimenter un petit peu tout ça. Je me dis, ça pourrait être cool, mais je me dis, bon, ça peut être gérable par d'autres moyens aussi. J'ai mes petites astuces, j'ai mes petits trucs en tête qui peuvent arriver, donc pourquoi pas. Et donc, l'idée serait de dire, je fais un podcast itinérant, enregistré sur le vélo pendant les pauses. Et alors, savoir après si je le publierai chaque jour directement sur le canal de ce podcast, pourquoi pas. Est-ce que je le publierai sur d'autres supports, pourquoi pas aussi. Par exemple, j'ai un canal Telegram dont je vous mets le lien en note d'épisode, un nouveau canal Telegram dans lequel je donne des conseils complémentaires et tout. Bien entendu, je peux aussi en parler sur mon Instagram, @BertrandSoulier. Je vous mets bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode. Mais voilà, ça fait partie en fait de mes petits questionnements et tout. Et puis bien entendu, après, au retour, faire un épisode bilan, répondre aux questions, faire le bilan du matériel que j'ai utilisé, comment ça s'est passé. Ça, c'est la logique. Mais en fait, cette histoire de podcast itinérant enregistré tout le long, comment ça s'est passé, les découvertes, etc. J'avoue que documenter cette aventure-là me plairait aussi beaucoup, et donc c'est ce que j'ai prévu de faire. Bah voilà, vous avez compris un petit peu comment ce que j'envisage, hein, comment je veux justement préparer cet été, et comment cet été, en fait, si ça se goupille bien mon histoire, hein, si j'arrive à le faire, si j'arrive à mettre ça en place. Donc je vous rappelle, hein, ça serait donc sur le début de l'été, donc je suis concentré sur rouler un peu, mais m'en sert de rouler pour préparer aussi la Iota, pour avoir du foncier, etc. Donc cette fameuse course. À partir du 27-28, me dire, bah tiens, je partirai bien à l'aventure. Et là, direction Nantes, puis Bordeaux, puis après, retraverser un autre sens jusqu'à la Méditerranée. Après, j'ai même en tête que je me disais, bah, est-ce que je pourrais rentrer en vélo après? Grande question. Je peux rentrer en train, je le sais, mais est-ce que je pourrais rentrer en vélo? Ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a tout le Massif Central, mais ce matin, j'ai vu passer un lien, notamment en disant que la grande traversée du Massif Central est quand même bien balisée maintenant, etc. Ouais, pourquoi pas, il peut y avoir des trucs comme ça, mais est-ce qu'en gravel, comment le faire? Est-ce que c'est gérable et tout? Et puis par rapport au temps, par rapport à plein de choses, il y a quand même des petites contraintes qui peuvent se mettre dedans. Mais ça, c'est à voir, hein. C'est un truc qui peut à étudier, j'ai envie de dire. Voilà, c'est partie des choses à étudier. Et puis ensuite, avec une période de repos sur le mois d'août, en entretenant la machine, le vélo, et en m'entretenant moi, pour être au point pour prendre le départ du Gravelman Paris-Deauville le 1er septembre. Voilà. Bah écoutez, pour moi, ça serait mon plan de l'été. Si ça se réalise comme je veux, ça serait cool. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, si vous avez des aventures, ce que vous avez prévu cet été. Dites-le moi en commentaire, hein, @Bertrand Soulier. Venez en parler sur Telegram, parce que sur Telegram, c'est pas juste un canal dans lequel j'envoie des messages. C'est aussi un canal sur lequel vous pouvez me répondre. Donc, n'hésitez pas à venir, à me dire ce que vous en pensez, mettre des commentaires. Et puis, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je vous continuerai à vous partager un petit peu mes péripéties. Puis on m'a donné quelques idées de sujets, donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer des idées de sujets. Je pense que j'ai un invité justement sur ces questions de vélo, d'évolution de vélo et tout, un sujet que je voudrais aborder. Donc je vais proposer à une ou deux personnes de discuter de ça, sur comment notamment on fait évoluer les vélos et comment on peut faire évoluer le vélo sans changer le vélo dans sa globalité, parce que bien sûr ça fait partie du gros avantage du vélo. Je vous ai dit, Hubert que j'ai croisé avait changé ses roues, d'autres personnes recommandent de changer les roues, de faire telle autre chose. On a parlé d'évolution des selles, bien sûr des pédales. Hubert, je vous l'ai pas dit aussi, m'a parlé aussi de cette histoire de changer le sens de sa potence, ce que m'avait conseillé aussi potentiellement certaines personnes. Bref, il y a plein de questions qui sont intéressantes et je pense que c'est un sujet que j'aborderai assez rapidement. Donc je vais essayer d'avoir un invité sur le sujet. En attendant, n'hésitez pas, vous, si vous avez d'autres questions, à me les transmettre, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.